Regardons ensemble dans nos Bibles, dans l'Évangile selon Jean. Et aujourd'hui, mon texte est à partir du verset 4. Et je voudrais vous parler de l'avocat efficace. Qui a besoin d'un avocat, si ce n'est celui qui doit avoir une défense devant le juge. Et à cause des accusations, on a besoin d'un avocat sûr, un avocat efficace de nous représenter devant la loi. Ça, c'est dans le sens légal. Et dans le sens biblique, c'est évident, nous sommes des pécheurs déchus depuis notre père Adam. Nous sommes nés dans ce monde, dans un état de péché. Ce n'est pas que nous devenons pécheurs lorsque nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs, nous sommes de cette nature. Alors devant Dieu, c'est une chose d'avoir un avocat dans les cours des hommes, mais en ce qui concerne Dieu qui est saint, qui est juste et qui ne peut jamais admettre le pécheur dans sa présence, alors il nous faut un avocat de nous représenter, et cet avocat n'est autre que le Seigneur Jésus. Donc nous voyons à travers cette prière sacerdotale du Seigneur Jésus dans ce chapitre 17, comment le Seigneur Jésus représente ce peuple que le Père lui a donné depuis l'éternité. Nous avons déjà vu cela dans le contexte des premiers versets où le Seigneur Jésus prie pour ce que le Père lui a donné dans le verset 2. Il dit, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Nous ne devons pas sauter ce verset pour arriver à d'autres raisonnements des hommes pour dire que non, il représente tous les êtres humains, parce que c'est écrit, tu lui as donné pouvoir sur toute chair. C'est vrai. C'est lui le seul avocat ordonné par Dieu le Père de représenter des pécheurs. Donc, il a l'autorité sur toute chair. Mais c'est écrit afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc, pour ceux que le Père a donné à son Fils. Et nous savons en lisant la Bible que c'est un nombre que l'on ne peut pas compter. C'est un nombre de pécheurs qui provient de toute langue, de toute race, de toute nation, de tout peuple. Selon le choix de Dieu dans sa grâce, et c'est toujours par grâce, c'est pour cela que le Seigneur Jésus a été établi depuis l'éternité comme l'avocat de ses pécheurs. Et donc, nous pouvons savoir que puisque c'est le Père qui l'a désigné comme l'avocat de ses pécheurs qu'il a choisi, donc c'est un avocat sûr. Personnellement, en tant que pécheur, je ne voudrais pas autre avocat que celui-ci qui prie pour les siens. Alors, dans le verset 4, nous voyons comment cet avocat efficace glorifie le Père. Nous n'arrivons jamais nous-mêmes, laisser à nous-mêmes, à glorifier le Père. C'est sûr, peut-être que nous pouvons tenter de le glorifier dans certains aspects de nos vies, mais de réellement glorifier le Père, c'est-à-dire rendre au Père toute la gloire dont il est digne. Aucun homme ne peut dire qu'il a glorifié le Père. Mais c'est ce que Christ dit ici dans le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Il parle là de sa vie parfaite, de sa vie d'obéissance à la loi et à la justice de Dieu. Non seulement à la lettre de la loi, mais dans l'esprit même de la loi, en toutes choses, non seulement par ses actes, mais ses paroles et même ses pensées en tout aspect. Le Seigneur Jésus, en tant qu'avocat efficace et sans péché. C'est pourquoi il peut dire « Je t'ai glorifié sur la terre ». Et notez aussi, il dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire ». Certains peuvent lire ça pour dire « Ah, mais il n'était même pas encore mort et il a dit qu'il a achevé l'œuvre que le Père lui a donné à faire ». Cela est dû au fait que, oui, c'était nécessaire qu'il donne sa vie, parce que la loi a deux aspects, ses exigences et puis sa peine. Mais lorsque le Seigneur Jésus dit ici, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire », il s'agit ici de l'aspect d'achever, accomplir parfaitement les préceptes de la loi. Il fallait que Christ soit l'agneau sans blâme et sans péché. Donc, jusqu'à ce point, pour aller s'offrir à la croix, c'était nécessaire que chaque aspect de la loi, non seulement dans la lettre, mais la loi en tant que type ou promesse, ou prophétie, chaque aspect de la loi, Christ avait besoin d'achever pour être l'avocat sûr et certain. Donc, il a pu le dire, et avec vérité. Si nous voulons un exemple de la justice satisfaite de Dieu, il suffit de regarder au Seigneur Jésus-Christ, pas nous-mêmes. Nous n'avons en nous-mêmes aucune justice, mais c'est la justice du Seigneur Jésus. Dans le mot justice, nous avons juste, ce qui est droit, qui concerne le droit et la gloire de Dieu. Et c'est Christ seul, parmi tous les hommes, c'est Christ seul qui aurait pu dire et qui peut dire qu'il a glorifié le Père. Et nous voyons ça répété à travers l'Évangile selon Jean et ailleurs dans la Bible, par exemple, dans Jean chapitre 4 et le verset 34. Lorsque les disciples l'ont emmené la nourriture à manger, Christ leur dit, Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Voilà ce qui est nécessaire pour un avocat, les pécheurs devant Dieu, c'est qu'il accomplisse l'œuvre pour laquelle le Seigneur Dieu l'a envoyé dans ce monde. Telle était sa mission d'accomplir. Il faut un salut accompli. Si le salut dépendait toujours de l'homme, de quelque chose que l'homme a besoin d'accomplir, donc il n'aurait jamais de salut. Donc, on ne pourrait jamais dire, ah oui, le salut accompli. Mais dans les mains du Seigneur Jésus et à travers sa vie parfaite, qu'il est venu dans ce monde vivre, c'est à travers cette vie que nous avons dans la Bible ici décrit que c'est accompli. C'est une œuvre que le Seigneur Jésus lui-même devait accomplir. Donc il y a une grande distinction dans la Bible entre la prédication des œuvres, que beaucoup, la plupart des prédicateurs prêchent toujours, même si en partie ils prêchent la grâce de Dieu, il s'y agit toujours des œuvres, que voilà ce que Christ devait faire et voilà ce que l'homme doit faire pour ensemble arriver au salut. Nous ne voyons pas ce message dans la Bible. C'est clairement dit que le salut est accompli par cet avocat parfait, efficace, et c'est à travers l'œuvre de Christ dans sa vie et dans sa mort. Dans Jean chapitre 8 et le verset 29, nous voyons cela répété encore, et c'est la manière que Christ a glorifié son Père. Il dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais, noter, toujours ce qui lui est agréable. Aucun homme ne peut dire ça. D'ailleurs, l'homme dans son péché ne peut même pas commencer à faire ce qui lui est agréable. Pour nous qui sommes des pécheurs, si Christ est venu accomplir cette œuvre de salut à notre égard, donc ce qui est agréable pour nous, lorsque l'Esprit révèle Christ en nous, c'est d'être entièrement basé sur l'œuvre de Christ et Christ seul. C'est par la foi, cette foi, que nous sommes agréables au Père, parce que c'est l'Esprit qui nous donne la foi, et cette foi maintenant regarde à Christ, qui a accompli tout le salut à notre égard. Tel est le témoignage de ceux pour qui le Seigneur Jésus est l'avocat. Et puis encore, dans l'Épître aux Hébreux, et le chapitre 10, et le verset 7, ce sont des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il dit, « Alors j'ai dit, voici, je viens. » C'est vrai que le salut était ordonné depuis l'éternité, mais il fallait que Christ vienne maintenant pour achever, pour accomplir le salut que Dieu le Père a ordonné pour ses pécheurs qu'il lui a donné. Donc il dit, « Je viens. » Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Quand il parle du rouleau du livre, il s'agit de l'Ancien Testament qui était, les paroles étaient écrites sur les rouleaux. C'est pas comme les livres que nous avons imprimés aujourd'hui. Donc, il s'agit de ces paroles de l'Ancien Testament inspirées par l'Esprit de Dieu et ça nous donne ici, dans le verset 7, la clé de la Bible, l'Ancien Testament, c'est que l'Ancien Testament parle d'une seule personne, d'une seule œuvre, et il concerne le Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc, dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est écrit pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, c'est avec des yeux spirituels que nous lisons et nous voyons que ça nous donne comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même a accompli la loi, a accompli les types, a accompli les prophéties. Toutes les promesses sont en Jésus-Christ. Oui et amen. Donc, quelqu'un qui prend l'Ancien Testament pour lire ce que dit la loi et pour dire, ah, voilà ce que Dieu exige de moi et il faut que je m'y mette avec tous mes efforts pour satisfaire à Dieu. Une telle personne est déjà condamnée. La loi n'a jamais été donnée comme un moyen de salut pour le pécheur. C'est le contraire. La loi a été donnée pour manifester, pour démontrer davantage. C'est comme si on prend la lumière et on brise cette lumière sur les ténèbres pour démontrer l'état de ces ténèbres et tout ce qui est caché dans ces ténèbres. Voilà ce que la loi fait de nous qui sommes des pécheurs. Et ça ne peut que nous condamner. La loi a été donnée selon ce que Paul a écrit dans Romains chapitre 3. A été donnée afin que tout le monde soit coupable devant Dieu. Ça n'a pas été donné afin que l'homme s'efforce maintenant pour dire, ah, mais moi, je peux le faire. Non. Dans Romains 3 et verset 19, c'est écrit, oh, nous savons que tout ce que dit la loi, tout ce que dit la loi, toute la loi, elle a dit à ceux qui sont sous la loi, c'est vrai, la loi exige la perfection. Mais ce n'est pas pour que l'homme maintenant, en regardant ça, dise maintenant, ah non, mais je peux l'accomplir. Non, c'est écrit afin que toute bouche soit fermée. Lorsqu'on rencontre des gens qui s'imaginent toujours, par leur moralité, par leurs efforts, accomplir même une partie de la loi, et leur bouche n'est pas fermée, ce sont des gens qui sont rebelles à la parole de Dieu. Ici, c'est écrit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car, verset 20, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Nul! Pourtant, l'homme dans sa rébellion dit non, non, mais au moins je peux accomplir ce que je peux. Et Dieu peut accepter mes efforts, non. Quand c'est écrit ici dans notre texte, dans Jean 17, où Christ, dans sa prière, s'adresse à son Père pour dire, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » C'est lui seul qui peut dire qu'il a achevé, qu'il a accompli tout ce qui est nécessaire. Toute l'œuvre que le Père lui a donnée, il a accompli dans toute sa justice. Revenant encore dans Romains chapitre 3, par la suite, parce que c'est écrit que nul ne peut être justifié lui-même par ses œuvres. Et verset 20, encore à la fin, nous dit, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Plus on lit la loi avec des yeux donnés par l'Esprit de Dieu, plus on se rend compte pécheur. C'est tout ce que la loi peut dire, c'est nous condamner. Mais, continuons à lire dans le verset 21, mais maintenant sans la loi. Cela ne veut pas dire que Dieu mette de côté sa loi, puisque le pécheur ne peut pas l'achever, non. Mais sans mon obéissance à la loi, sans que l'obéissance soit exigée du pécheur, c'est écrit, la justice de Dieu est manifestée, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Encore, la loi et les prophètes, c'est la somme de l'Ancien Testament. Et c'est écrit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Cela ne veut pas dire par ma croyance en Jésus-Christ, mais par la foi. Lorsque vous voyez cette description avec l'article définitif, la foi, c'est tout ce que l'Évangile, la foi, c'est ce que Dieu lui-même révèle à travers l'Évangile. Donc, justice de Dieu révélée dans cette foi-là en Jésus-Christ. Qui dit la foi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on peut lire justice de Dieu par Jésus-Christ, par la fidélité du Seigneur Jésus-Christ, par tout ce que cette révélation de la Bible nous donne de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et nous avons déjà vu dans notre étude, à travers l'Évangile selon Jean, que la foi vient de Dieu. Personne ne peut croire en Christ si cela ne lui a été donné du Père. Donc ce n'est pas en train de dire ici, ah, mais si l'homme pouvait simplement croire, alors il pouvait avoir la justice de Dieu. Non, ce n'est pas notre croyance qui établit la justice de Dieu. Ça, c'est évident dans le contexte. C'est la justice que Christ lui-même a accomplie et a satisfait pour glorifier son Père. C'est par cette justice que les pécheurs pour qui il est représentant comme avocat, c'est par cette justice-là qu'ils sont déclarés justes. Mais la croyance vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire la parole de Dieu. Avoir des yeux ouverts, des oreilles ouvertes pour que nous contemplons qu'il n'y a aucune justice en nous, mais en Jésus-Christ. Et vous notez à la fin, il n'y a point de distinction. Il n'y a pas un message pour les Juifs et puis un autre pour les Grecs, mais cette justice, cette loi de la justice de Dieu révélée à travers la foi. C'est là qui est la justice établie par le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons la même chose dans Romains chapitre 5 et à partir du premier verset. Notez, c'est écrit « étant donc justifié ». Étant donc justifié comment? Dans le verset 25 du premier du chapitre précédent, Romains 4, « lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » C'est dans la mort de Christ qu'il a été livré à cause, pour nous, veut dire, à cause de nos péchés, nos offenses, et ressuscité pour notre justification. Ça veut dire à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la justification de ces pécheurs pour qui il est mort a été déjà accomplie. Donc, ça ne dépend pas de nous. Parce que le verset 1 de chapitre 5 dit, étant donc justifié de cette manière, les éditeurs ont placé la virgule à la fin de par la foi. Et so, il faut savoir que dans le texte original, il n'y avait pas de ponctuation. C'est les éditeurs ici dans la traduction qui l'ont placé. Mais je crois que ça doit être placé après justifié. Étant donc justifié, basé sur la vie et la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est par là que les pécheurs ont été justifiés. Donc, virgule, c'est par la foi nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette foi qui nous révèle le Seigneur Jésus-Christ, cette foi qui nous révèle cette œuvre accomplie du Seigneur Jésus, ce n'est pas la foi qui sauve, c'est le Seigneur Jésus qui sauve, mais c'est la foi qui nous donne cette paix. C'est pas là que nous apprenons, lorsque Christ est prêché, Christ est Christ crucifié. La paix de Dieu que Christ a établie déjà par sa mort et sa résurrection, maintenant est révélée au cœur. Lorsque le Seigneur nous donne les yeux pour le voir par l'Esprit de Dieu. Et c'est écrit à qui, verset 2, nous devons avoir eu par la foi accès. C'est-à-dire encore par Christ. Partout où vous voyez le mot la foi, vous pouvez mettre le synonyme par Christ. Nous avons cet accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu. Qui est la gloire de Dieu? C'est celui qui a glorifié le Père. Et ce n'est autre que le Seigneur Jésus lui-même. Alors c'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire ici dans le verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. » Nous pouvons être certains que Christ, en tant qu'avocat des pécheurs, a glorifié le Père déjà, à l'égard de ces pécheurs que le Père lui a donnés. Aucun de nous ne peut jamais dire que nous avons même commencé à glorifier le Père et achever cette œuvre que le Père lui a donnée à faire. Non, tout le salut demeure en Jésus-Christ. Alors, dans le verset 5, à cet égard, en regardant toujours comment Christ est l'avocat efficace des pécheurs devant Dieu, des pécheurs que Dieu lui-même a choisis, nous lisons, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Alors, on peut se poser la question, si Christ a déjà glorifié le Père sur la terre, pourquoi Christ maintenant demande au Père de le glorifier? Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Premièrement, nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est le mystère de la divinité, qu'il s'agit du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les trois sont un. Donc, lorsqu'il dit ici, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Nous ne devons jamais ignorer que, bien vrai, Christ est venu dans ce monde comme un homme, mais il n'a jamais cessé d'être égal avec Dieu depuis l'éternité. Donc, sa prière ici, c'est de pouvoir retourner au Père de là où il est venu. Retourner en tant que représentant des pécheurs, en tant qu'avocat de ces pécheurs que le Père lui a donnés, et de jouir davantage encore de cette gloire qu'il avait auprès du Père même avant que le monde fût. Pour moi, cela me réconforte de savoir que dans cet avocat qui est le Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui connaît déjà le Père. Mon désir, c'est d'être auprès de Dieu pour l'éternité. Mais comment y arriver? Si j'étais en voyage quelque part et je ne savais pas comment arriver à ma destination, je ne veux pas n'importe qui de m'indiquer comment arriver. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît bien le pays et qui sait déjà comment y arriver parce que cette personne est déjà venue de là. Et donc, il peut maintenant m'accompagner là où je désire arriver. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme, moi-même inclus, je n'ai jamais vu de mes yeux la gloire éternelle. Je parle du ciel, je prêche concernant le ciel. Et mon désir, c'est d'y arriver, mais comment? Nous savons que c'est seulement à travers celui qui est venu du ciel lui-même et qui non seulement connaît Dieu, mais qui est Dieu. Parce que personne ne peut être reçu devant Dieu si ce n'est à travers celui qui est Dieu et qui est venu en tant qu'homme pour représenter les pécheurs perdus tels que nous sommes. Et par son œuvre maintenant, nous accompagner, nous faire parvenir auprès de son Père. Donc le témoignage ici, c'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui a le droit de faire ainsi parce qu'il est Dieu et depuis l'éternité. Encore, nous avons déjà vu ça dans cet évangile selon Jean, le premier chapitre. C'est important d'y revenir là-dessus et nous rassurer que ce que Christ dit ici est déjà confirmé dans les Écritures. L'Évangile selon Jean, le chapitre 1, vous voyez, c'est écrit « Au commencement était la parole ». Qui est la parole si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu? Et c'est écrit « La parole était avec Dieu ». Était dans le sens que depuis l'éternité, depuis le commencement, et la parole était Dieu. C'est un mystère. Comment il pouvait être avec Dieu et en même temps Dieu? Il n'y a pas trois dieux. Un seul Dieu, mais représenté, manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est écrit, elle, c'est-à-dire la parole était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça parle là de la création du monde. Donc, celui qui est venu pour être l'avocat de ces pécheurs que le Père lui a donné est celui qui les a créés. Ouais, pour les pécheurs que Dieu a ordonné au salut, le Seigneur Jésus-Christ est leur créateur d'abord. Et puis, deuxièmement, leur gouverneur, parce que celui qui a créé le monde, c'est lui qui gouverne le monde dans chaque aspect de nos vies. La main du Seigneur Jésus est sur nous. Il est notre vie, non seulement spirituellement, mais physiquement. Le fait que je suis devant vous en train de vous prêcher maintenant, c'est grâce à ce même avocat qui est mon créateur et mon gouverneur. Autrement, je ne pourrais même pas ouvrir ma bouche ou me tenir debout. C'est lui qui détient ma vie physique et spirituelle. Mais plus important de tout cela, c'est qu'il est mon rédempteur. Il est ma justification devant Dieu, ma défense, mon avocat. Et un avocat efficace, celui qui a créé le monde. Est-ce qu'il ne pourrait pas aussi donner le salut qu'il a accompli et maintenir, garder ce salut jusqu'à l'éternité? Bien sûr, c'est parce qu'il est Dieu. Et lorsque c'est écrit ici, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans sa parole, sans son autorité. Ça est vrai physiquement, mais c'est vrai spirituellement. Sans que Christ lui-même ne donne l'ordre, personne ne pouvait vivre. Et c'est pourquoi c'est écrit verset 4, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alors ça c'est un premier point à noter. Lorsque Christ dit qu'il a glorifié son Père, dans sa prière, il demande au Père maintenant d'accepter cette œuvre qu'il a achevée à l'égard de ces pécheurs pour qui il est venu dans le monde et a donné sa vie. Mais deuxièmement, nous voyons que le Seigneur Jésus, ayant accompli, ayant glorifié son Père, demande à ce que son Père l'accepte lui-même encore dans sa présence. Donc ça force la question maintenant, mais comment est-ce que nous savons que réellement Christ a tout accompli? C'est le fait que le Père l'a ressuscité des morts. Et non seulement ressuscité, mais il est monté au ciel et il a reçu maintenant son Fils de nouveau, où la Bible dit qu'il est assis maintenant à la droite de la majesté divine. S'asseoir veut dire que l'œuvre est finie. Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle et dans le temple, il n'y avait pas de chaise pour les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs de pouvoir s'asseoir parce que l'œuvre n'était jamais accomplie. Il fallait toujours offrir chaque jour ses sacrifices devant Dieu parce que le sacrifice final n'a pas été accompli encore. Mais lorsque Christ a achevé, a accompli cette mission, cette œuvre du salut à l'égard de ce peuple que le Père lui a donné, le Père l'a ressuscité. Ça, c'est la première preuve qu'il a effectivement satisfait à la loi et la justice de Dieu. Mais non seulement cela, maintenant monté de nouveau auprès du Père où il est assis et il règne et il intercède sa présence même et à l'égard de ces pécheurs que le Père lui a donné. C'est pourquoi il est celui qui dévance les autres. Il est entré dans la présence du Père comme l'avocat efficace. Alors ici, il prie son Père afin que lorsqu'il a tout fini, c'est-à-dire ayant donné sa vie, versé son sang, pour achever l'aspect de la pénalité de la loi, la peine de la loi, que la loi a exigé, que le Père le reçoit de nouveau auprès de lui dans ses droits qu'il avait auprès du Père avant même, comme c'est écrit, que le monde fut. Alors, tel est notre avocat, un avocat efficace, un avocat que le Père écoute. Il y a bien d'avocats qui ne vaut même pas la valeur de porter ce titre avocat dans le monde. parce que ce qu'il représente devant les cours humaines ne sont que des faux. Les gens qui ont de tels avocats arrivent toujours à être condamnés. Ça, ce n'est pas un avocat. Un véritable avocat est celui qui est acquitté selon la loi et la justice. Et devant Dieu, il n'y aura aucun pécheur justifié si ce n'est ce que le Seigneur Jésus représente. Et on peut dire ça d'une autre manière, que tous ceux que le Seigneur Jésus représente, ils seront sauvés, ils sont sauvés, parce que il a satisfait à toute la loi et la justice de Dieu le Père. Alors, le fait que Christ est remonté au ciel et où il est assis maintenant à la droite c'est la place de l'honneur, l'honneur devant le Père. Il a la droite de la majesté divine. Et notre assurance, alors, c'est que si Christ est notre représentant, donc nous sommes acceptés en lui. Nous voyons cela dans plusieurs versets de la Bible, mais c'est ce que Christ prie ici dans Jean 17, le verset 21 et 22, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Je remercie le Seigneur pour le fait que Jésus-Christ est cet avocat efficace pour les pécheurs tels que nous sommes. Et qu'en lui, le salut alors est sûr. Et donc que son nom soit béni. Amen.